Mythes et légendes.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Je vous propose aujourd'hui un épisode tout à fait à part. En effet, je vous invite à découvrir un mythe surprenant, celui d'un des plus célèbres gangsters des États-Unis, le dénommé Al Capone. Comme je vais vous l'expliquer, Al Capone participe pleinement des mythes sur lesquels les États-Unis modernes, ceux des années 1930-1950, se sont construits. D'une certaine manière, Al Capone représente l'archétype du dernier bandit, tel que véhiculé, par exemple, dans l'imaginaire de la conquête de l'Ouest. Les États-Unis, avec un État central, puissant et respecté, s'affirment dans les années 1930 et réduisent à néant ce type de personnes. L'histoire réelle de Capone est passionnante. Sa place dans l'imaginaire américain est fondamentale. Mais au-delà du folklore lié aux gangs des années 1920-1930, les Cadillacs noirs, les mitrailleuses Thompson et les surnoms incroyables, plus on étudie les faits, plus la brutalité et la violence de ces gangsters apparaissent comme insupportables. Exécutions, viols, tortures sont le quotidien de nombreux hommes de main de ces groupes. À l'époque même des faits, l'image d'Al Capone est très troublée, très ambivalente. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet, la vie d'Al Capone. Alphonse Gabriel Al Capone naît à la toute fin du 19e siècle, en 1899, à New York, dans le quartier de Brooklyn. Ses parents sont originaires de la région de Naples, en Italie. Ils viennent d'immigrer aux États-Unis. En effet, de nombreux Italiens émigrent à cette époque. Ils fuient la misère de leur pays et tentent la fortune dans le Nouveau Monde. Alphonse est le quatrième enfant d'une fratrie nombreuse de 9 enfants. Il est tout de suite à noter que presque tous ses frères et sœurs seront bientôt pour lui de solides acolytes. Les revenus de la famille Capone sont alors modestes. Le père de Al est barbier et sa mère est couturière. Al ne fait pas de longues études et ses rapports avec ses maîtres sont conflictuels. C'est le moins que l'on puisse dire. Ainsi, il est renvoyé à 14 ans de l'école après avoir tapé un professeur. Désormais, Al Capone va vivre de petits boulots et rencontrer son futur mentor, Johnny Torrio. Torrio est un des chefs de la pègre new-yorkaise. La rencontre entre Capone, qui est alors adolescent, et Torrio, qui a une cinquantaine d'années, est très facile. Et pour cause, ils sont voisins. Johnny Torrio introduit l'adolescent dans le milieu du crime new-yorkais. Voilà que Al Capone devient videur dans des boîtes de nuit. Il a 18 ans. C'est à ce moment-là qu'il se fait entailler à coups de rasoir la joue pour avoir insulté la sœur d'un autre mafieux. Ses blessures au visage lui valent le surnom de Balafré, Scarface en anglais. Dans ces années, juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1919, est voté l'amendement qui instaure la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction de la consommation d'alcool dans l'ensemble des États-Unis. Cette réglementation est fédérale. C'est une décision de Washington. Des enjeux moraux justifient ce vote, et cette interdiction va être le terreau idéal pour les organisations mafieuses. Les gangsters vont pouvoir fournir l'alcool, illégalement bien sûr, à la population. Ils paraîtront donc comme opposants de l'État central, opposants de ces ronds de cuir qui décident si loin du peuple. Bref, on voit là un premier élément structurant de la pensée américaine, l'opposition entre la liberté individuelle et l'autorité de l'État. Johnny Torrio quitte bientôt New York et décide de développer son organisation mafieuse à Chicago. Celui-ci a monté sur cette ville industrielle en plein essor économique du nord-est des États-Unis un gang déjà très puissant et très rentable. Nous sommes en 1920. Le jeu, la prostitution et l'alcool permettent à Torrio et aux 800 membres de son organisation d'amasser une véritable petite fortune. Il fait alors appel à Al Capone qui le rejoint immédiatement. À 23 ans, Al Capone devient donc le bras droit de Johnny Torrio. Les deux compères déplacent le siège de l'organisation de Chicago à sa banlieue, Cicero. En effet, les autorités municipales y sont moins regardantes et tout simplement plus corrompu. Finalement, Torrio décide de se retirer des affaires après avoir été gravement blessé lors d'une fusillade. Johnny Torrio quitte donc Chicago pour se mettre au vert en Italie. Il laisse ainsi à Al Capone les clés de l'organisation. Nous sommes en 1925. Une simple anecdote permet de saisir la violence dont Capone est capable. Celui-ci a 25 ans lorsqu'il abat de 6 balles une personne qui a fait une remarque désobligeante sur un de ses proches. Qu'arrive-t-il à Al Capone suite à cet homicide fait en plein milieu d'un bar où sont attablés de nombreux clients et témoins ? Rien. Rien si ce n'est un interrogatoire. Mais comme tous les témoins souffrent d'affreux troubles de mémoire, Al Capone ne peut être poursuivi. Pour s'imposer à Cicero, puis à Chicago, Capone doit corrompre les élus et les fonctionnaires locaux. Pour cela, il n'hésite pas à aider très efficacement un candidat lors des élections municipales à Cicero en 1924. Ces hommes de main intimident les électeurs et remplacent les urnes des bureaux de vote où le candidat protégé serait en position défavorable. Ces exemples de fraude et de pression mobilisent finalement les forces de l'ordre. Et c'est dans ce contexte que Frank Capone, un frère de Hall, trouve la mort, abattu par les policiers. Les faits sont les suivants. Les policiers sont sur leur garde et circulent dans Cicero. Ils aperçoivent Frank Capone marchant le long des murs de clôture de la centrale électrique de Cicero, le principal employeur. Le véhicule de police s'arrête et les hommes descendent pour contrôler ou arrêter Frank Capone. Frank croit pour sa part à une attaque de membres d'un autre gang. Il plonge ainsi ses mains dans ses vêtements pour prendre son arme. Les policiers ouvrent le feu et l'abattent. Les policiers vont jusqu'à vider leur chargeur sur les corps inertes de Frank Capone. Al Capone décide de faire de l'enterrement de son frère un moment symbolique, un moment important, pour marquer les esprits, pour démontrer sa puissance. Au-delà de l'importance du cortège, du nombre de fleurs, le cercueil de Frank est en argent plaqué. Désormais, Al Capone développe très rapidement son organisation à Cicero et à Chicago. Le contexte général est celui de la prohibition aux États-Unis et bientôt celui de la crise de 1929, crise qui frappe très durement le pays. Al Capone est jeune, en 1925 il a 26 ans. Son organisation compte presque 1000 hommes et contrôle plus de 150 bars clandestins et autant de maisons de passe ou d'établissements de jeux. Avec 120 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel à la fin des années 1920, l'organisation Capone est très rentable et riche. Ce chiffre d'affaires considérable est cependant grévé par un petit budget consacré à la corruption des autorités et des forces de l'ordre. Petit budget de 30 millions annuels. Un épisode majeur de la légende bien réelle de Al Capone est celui de la Saint-Valentin 1929. Deux principales organisations se partagent le territoire de Chicago. Celle de Al Capone, celle dite du South Side, et celle des Irlandais, dite du North Side. Ces deux gangs se disputent notamment le marché de l'alcool dans le Chicago de la Prohibition. Al Capone, pendant les faits, est dans sa résidence de Floride, à Miami Beach. Il peut ainsi facilement plaider sa non-responsabilité dans ce massacre. Il n'en est pas moins le commanditaire, car si Al Capone veut tuer les principaux membres de l'organisation irlandaise, c'est que ceux-ci ont aussi tenté de l'assassiner à plusieurs reprises pendant les mois qui précèdent. Alors comment se déroule ce fameux massacre de la Saint-Valentin ? Les hommes de Al Capone sont conduits par Jack McGurn, surnommé la sulfateuse. Ce dernier s'entoure de 6 tueurs. Et pour être sûr de pouvoir tuer les adversaires sans prendre trop de risques, Jack McGurn imagine le plan suivant. Une livraison de whisky de contrebande est proposée aux gangs irlandais dans un lieu discret. Ainsi, les hommes à abattre seront rassemblés. À ce moment, de faux policiers interviendront et désarmeront les brigands du gang opposé, puis les tueurs interviendront à leur tour pour exécuter les Irlandais. Ainsi, le 14 février 1929, à 10h30 du matin, les membres du gang du North Side, c'est-à-dire les Irlandais, entrent dans l'entrepôt pour recevoir la prétendue cargaison de whisky. Leur chef, Bugs Moran, est en retard. Ce retard va lui sauver la vie, et il s'agit pourtant de la cible la plus importante de cette attaque. Cependant, un des guetteurs confond les personnes rentrant dans l'entrepôt et croit que le chef du gang irlandais est bien rentré. C'est alors donc que deux hommes pénètrent dans l'entrepôt, déguisé en policier, et désarme les hommes après les avoir fait aligner contre un mur. Les tueurs arrivent et mitraillent les hommes du Northside de plus de 80 balles. Afin d'éviter que le voisinage ne panique et ne donne l'alerte, les tueurs habillés en civil sortent dans la rue, les mains en l'air, pendant que le faux policier les tienne en joue avec leurs armes. Le massacre fait ainsi 7 victimes, mais le chef du Northside, absent, est sauvé. Le scandale est immense et l'enquête prouve rapidement que ce sont des hommes d'Al Capone qui ont fait le coup. L'image du chef de gang est largement ternie par ce massacre. Dans ce contexte, Al Capone s'entend avec les autorités locales pour être arrêté, puis emprisonné pour une courte durée. Il s'agit pour lui de se mettre à l'abri de tueurs à gages et pour les autorités de montrer que Capone n'est pas invulnérable, surtout suite au massacre de la Saint-Valentin. Al Capone est ainsi arrêté en août 1929 et mis en prison. Le gangster verse à chaque policier qui a participé à son arrestation la coquette somme de 10 000 dollars. De plus, il fait aménager sa cellule de manière luxueuse. 10 mois plus tard, il est libéré de prison. La raison, la motivation de son arrestation était un port illégal d'armes. Comme je vous l'ai dit, au début des années 1930, la crise économique frappe de plein fouet les États-Unis. La ville industrielle de Chicago est très durement touchée. Al Capone organise pendant l'hiver 1931 une soupe populaire qui nourrit certains jours jusqu'à 5000 personnes. L'image du chef de gang s'améliore. Mais les événements vont s'accélérer. Voyons désormais la chute de Capone. Il est important d'avoir en tête que Al Capone tombe d'abord et avant tout pour des raisons fiscales. Le procès intenté contre Al commence le 6 octobre 1931. 3 semaines plus tard, Al Capone est condamné à 17 années de prison et à une considérable amende de 50 000 dollars. La méconnaissance du droit fiscal des avocats de Capone explique en grande partie cette condamnation pour des faits qui étaient en réalité prescrits pour la plupart. De sa prison, Al Capone continue à gérer ses affaires dans un premier temps. Puis en 1934, il est transféré à la prison d'Alcatraz. Son régime carcéral est alors très dur et il ne peut plus gérer son empire à distance. D'autres organisations remplacent la sienne petit à petit. La syphilis ronge Al Capone. Son état de santé se détériore fortement et en 1939, il est finalement libéré sous caution et se retire dans sa propriété de Miami Beach. Il y meurt d'une crise cardiaque en 1947 à 48 ans. La mort de l'ancien gangster n'est pas un événement. Entre le moment de la gloire de Capone, les années 1920-1930, et sa mort, bien des événements et des évolutions ont bouleversé les États-Unis et le monde. À commencer par la Seconde Guerre mondiale et même par le tout début de la guerre froide. Al Capone appartient donc déjà à l'histoire, à la légende, au monde passé. De plus, son empire s'était alors totalement dissous. La fin de la prohibition en 1933 joue un rôle majeur dans cette évolution en retirant à l'organisation une importante source de revenus. Dans le prochain épisode consacré à Al Capone, je vous présenterai son caractère mythique. C'est-à-dire en quoi sa personne, sa vie, son action, mais aussi la légende qui l'a entourée, ont pleinement participé de la construction idéologique des États-Unis dans les années 1920-1940.